Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
On va vous parler des rencontres décoloniales rurales qui vont avoir lieu les 17 et 18 mai 2025 à Oust-sur-Scie. Mais c'est quoi ?
C'est un événement sur 2 jours qui est créé par un collectif mixte composé de personnes racisées et de personnes blanches. C'est sans mexisme, mais on ne s'est pas fait exprès. Et du coup, on est des personnes qui habitent aux alentours de Cré. Et comme on s'ennuyait un peu, on a eu envie d'aller explorer un peu plus en profondeur les questions antiracistes et décoloniales. Et avec un besoin politique en ce moment et un peu récurrent d'ouvrir des chantiers sur des problématiques un peu plus précises. Et du coup, de se rencontrer et de se former. Du coup, on parle plutôt de chantier décolonial, antiraciste, parce que on a conscience que la politisation en général, c'est un processus long, souvent désordonné, hein, et qu'on est tous à des endroits différents. Mais on sent qu'il y a une urgence à construire des complicités locales, du coup là où on est, hein, à Cré. C'est important de dire aussi que le collectif n'est pas composé d'expertes. Voilà, le but, c'est de créer des conditions de transmission d'idées et de pratiques politiques. Et pour ça, on a décidé d'inviter des personnes qui sont concernées par les sujets qu'elles abordent. Donc, il n'y a pas de personnes noires dans le collectif. Et on ne va pas faire de la pédagogie nous-mêmes autour de la négrophobie. Mais on a de la chance d'avoir plein de personnes noires qui ont des choses à dire et qui ont fait plein de taf. Et sous plein de formes différentes, en plus, en France. Donc, on leur a pris des billets de train et elles viennent à Oust.
Et tu as dit dans le collectif qu'il y avait des personnes blanches et des personnes racisées. Est-ce que tu veux bien expliquer un peu ce que ça veut dire racisé ?
Oui, racisé, c'est des personnes qui subissent le racisme en France. Sous plusieurs formes.
Merci.
Et du coup, dans cet événement, il y a des tables rondes, du coup, des discussions qui sont ouvertes à tout le monde. Mais il y a aussi des ateliers en plus petits groupes pour travailler certaines questions. Il y a un atelier enfant, il y a une exposition au long des 2 jours aussi. On va en parler un petit peu plus. On ne va pas parler de tout le programme, on va essayer de parler de quelques trucs du programme. Et puis, on a aussi des événements de soirée, comme une projection d'un film documentaire, un concert, performance aussi, poésie. Et tout ça avec à manger, à boire sur place, à petit prix, des tables de ressources. Et une librairie aussi qui vient proposer des bouquins, parce qu'il y a pas mal d'intervenants qui ont écrit des bouquins. Donc, en fait, elles vont en parler aussi, elles vont le présenter. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir plusieurs formes de transmission autour du sujet, quoi.
Est-ce que tu as envie de dire un mot sur ce que ça signifie décolonial ?
Décolonial, c'est la lutte contre le colonialisme, avec l'idée que c'est pas quelque chose qui appartient au passé, mais quelque chose qui est présent et qui continue sous plusieurs formes. Et du coup, ces luttes, elles existent depuis le début qu'il y a eu de la colonisation. Il y a eu des luttes, il y a eu de la résistance pour l'autonomie et l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est du coup internationaliste, c'est-à-dire qui est au-delà des frontières de la France, dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, mais qui prend en compte aussi les spécificités locales. Du coup, les personnes, elles luttent dans leur contexte contre eux. Et du coup, c'est pas une lutte qui est universaliste, quoi, qui est partout pareil, mais qui a des spécificités. Et nous, vu que notre contexte, c'est l'impérialisme français, on a de quoi dire, quoi, on a de quoi faire. Voilà. Et du coup, peut-être encore quelques mots sur la décolonisation. C'est pas que... On entend beaucoup décoloniser les esprits, les imaginaires. Donc ça fait aussi référence au retrait des administrations coloniales, au retrait des militaires aussi, et des industries occidentales qui sont sur les territoires colonisés, comme par exemple la Kanaky, et les territoires dits outre-marins, qui sont colonisées par la France. Mais aussi, par exemple, on peut aussi parler des colonisations aussi au sein des pays africains à travers les luttes panafricanistes. Ou par exemple, la lutte contre le franc CFA qui est gérée par la France. Donc tout ça, ça fait partie des luttes décoloniales qui sont liées à la France. Et aussi, bien sûr, des luttes dans le territoire, à l'intérieur de la France, comme pour l'accueil des personnes qui viennent des ex-pays colonisés ou juste qu'ils ont envie de s'installer en France. Donc voilà, ça parle un peu de trucs sérieux aussi, mais ça peut, ça se peut que les gens aussi veulent juste savoir s'ils peuvent porter des dreads, du wax, des sarouels et faire du tantrisme. Ça fait aussi partie des questions décoloniales sur l'appropriation culturelle. Peut-être on peut en parler à un moment donné, quoi. Et sinon, moi j'avais aussi envie d'insister sur l'autodétermination des peuples et pas forcément la création d'États. Parce qu'on entend souvent la décolonisation, c'est une période où les colons partent et puis on crée un État national, tout ça, qui rentre dans le capitalisme. Ben, dans le sens où les peuples, en fait, ils veulent pas forcément vivre au sein d'un État nationaliste et capitaliste, avec des frontières, et que ça aussi, c'est un modèle qui est colonial et qui a tendance aussi à être remis en cause à plein d'endroits. Et ben, pourquoi ça, c'est important? Parce que pour beaucoup... ben, d'habitants en France et du monde, ben, en fait, les notions d'État, de nation et de frontières, ben, elles n'ont pas de sens, en fait. Et elles ont plutôt tendance à être néfastes et meurtrières. Et du coup, je trouve que c'est important d'inclure la critique de l'État, des frontières et de l'économie capitaliste et du patriarcat aussi, quand on parle de décolonisation. Voilà un petit topo sur ça veut dire quoi, décolonial, et puis... Après, il y a plein de personnes qui en parlent différemment parce que justement, c'est lié au contexte dans lequel elles sont. Et il n'y a pas un sujet principal, mais c'est plein de formes différentes, en fait. Ouais.
Et là, tu en as parlé sous une forme à échelle mondiale, quoi. Mais du coup, là, vous avez posé le truc de décolonial et rural. Du coup, comment vous avez croisé avec la question de la ruralité, des ruralités de...
Ben, y a l'idée que en fait, ben, la colonialité, c'est un peu, c'est partout, c'est partout où il y a en fait, y a l'État, il y a le capitalisme, mais aussi il y a aussi des personnes qui sont concernées dans leur vie, qui subissent la colonialité encore. Que ce soit dans leur rapport avec la police, dans leur rapport avec l'administration, dans nos rapports les uns avec les autres aussi. Hein. Et du coup, la ruralité, on va dire, c'est pas envisagé forcément comme une opposition à la ville. Perso, moi, je commence à peine à formuler des questions dans ma tête autour de campagne, ville. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre comment, en fait, cette distinction, elle peut servir des mouvements et des pratiques politiques françaises. Pour créer des catégories et aussi les utiliser à des fins électorales et politiques, créer des groupes. Du coup, l'idée, c'était de s'intéresser sur, en fait, c'est quoi la spécificité, en fait, de quand tu es à la campagne, comment tu travailles sur ces questions, parce qu'il y a des personnes racisées aussi qui ont envie de bosser sur ces questions, et du coup, par quel bout on le prend et comment on fait, quoi. Et du coup, c'est bien ben, d'entendre les personnes racisées elles-mêmes qui sont à la campagne, qui peuvent en dire plus. Et pour ça, on a une partie, on a une expo sur le racisme ordinaire. Est-ce que tu veux présenter ça?
Ouais, et ben l'année dernière, c'est Radio Saint-Ferréol, on a réalisé une exposition qui s'appelle Racisme invisible, l'ordinaire dans la vallée de la Drôme. C'est une exposition qui a été réalisée par une équipe mixte dans tous les sens du terme, mais notamment à la fois des salariés de la radio, des membres du CA, des intermittentes, des bénévoles. Et l'idée, c'était de proposer un outil, un espace de parole pour raconter le vécu de personnes racisées ici. Et nous, on a plutôt pris l'axe du racisme invisible ou du racisme ordinaire, dans le sens où c'est le petit racisme. Enfin, dans certaines interviews, on entend que c'est du racisme mignon et gentil, mais qui est à répétition et tout aussi violent. Et du coup, en gros, l'exposition, c'est une expo photo et sonore. Donc, chaque portrait est accompagné d'une capsule sonore qui dure entre 10 et 15 minutes. Il y en a 8 en tout. Et voilà, c'est des personnes qui racontent un peu leur vécu, ce qui se passe ici quand on est minorisé et qu'on est archivisible à la fois, ce à quoi on est confronté dans le quotidien. En fait, c'est de la parole directe. Du coup, les personnes vraiment font un récit de leur quotidien. C'est une expo qui est déjà pas mal sortie et qui sera le 17 et le 18 mai pendant les rencontres à la salle des fêtes de Oust-sur-Sie.
Cet événement, il est centré sur lutter contre la négrophobie à la campagne. Du coup, la négrophobie, c'est le racisme envers les personnes noires. Donc il y a l'idée que tous les racismes n'ont pas les mêmes mécanismes, ne fonctionnent pas sur les mêmes stéréotypes et sur les mêmes pratiques politiques aussi. C'est difficile de se débarrasser d'un mécanisme si on ne comprend pas comment il fonctionne. Nous, notre question, c'est quelles sont les spécificités de la négrophobie ? Comment l'exploitation, la domination et la déshumanisation des personnes noires, en fait, elles structurent la société, dont la société française, de façon... elles structurent, c'est-à-dire de façon matérielle, c'est-à-dire comment elles divisent les territoires, comment elles, elles agissent sur l'économie, comment elles agissent aussi sur le travail, et aussi sur la menace physique directe des corps noirs, comme avec l'institution policière, par exemple. Et on peut aussi parler de comment elle structure la société de façon symbolique, dans le sens où elle influence les imaginaires, les désirs, comment elle structure aussi nos relations les unes avec les autres, et comment les institutions, elles entretiennent cette négrophobie. Et comment la domination blanche et le capitalisme, en fait, ils en sont complètement dépendants. Que c'est pas qu'une question qui est reléguée aux personnes qui la subissent, mais qui structure la société. Et donc nous, notre vision du racisme, elle est structurelle dans ce sens-là. On essaie de comprendre comment ça structure la société. Et parfois, on peut aussi se faire avoir par une forme de racisme moral. Qu'il faudrait qu'être antiraciste, c'est être une personne gentille, qui fait des bonnes actions, qui dit les bonnes choses, qui a des valeurs humanistes. Et en fait, nous, ça nous empêche d'être précis et d'être efficace. On a une vision d'un racisme structurel qui est partout, qui influence tout le monde, qui organise la société et qui est entretenu par, ce qui est aussi important, qui est entretenu par plein de pratiques politiques au sein de l'État moderne. Et voilà, et c'est se poser la question, quand on vit dans un pays qui s'est construit économiquement, intellectuellement, spirituellement, avec des siècles de domination esclavagiste et coloniale, qu'est-ce que ça peut bien avoir comme impact aujourd'hui sur les institutions, mais aussi sur les personnes noires, sur les personnes racisées entre elles, et aussi sur les personnes blanches. L'idée, c'est d'avoir des personnes intervenantes qui abordent le sujet chacune de manière différente, parce que toutes ne disent pas la même chose, mais du coup d'avoir... il y a des personnes qui disent des poèmes, d'autres personnes qui font de la théorie politique, des personnes qui font des films documentaires. On n'a pas un panel complet, hein, c'est pas l'idée d'être exhaustif, mais c'est de commencer un travail en écoutant déjà les personnes qui subissent la façon dont elles ont envie de le dire et ce dont elles ont envie de parler d'abord, quoi.
Ça veut dire qu'il va y avoir des rencontres décoloniales 2, 3, 4 ?
En fait, ouais, le but c'est que le mouvement décolonial, il pèse, en fait, et qu'il soit une force politique qu'on ne peut pas ignorer. C'est déjà le cas, mais c'est pas assez. Enfin, le travail ne sera jamais fini, même si ce n'est pas ce collectif-là. C'est... De toute façon, c'est un travail qui est déjà entrepris par d'autres personnes, par des associations, de plein de façons différentes. Du coup, c'est juste un truc parmi tout ce qui existe, tout ce qui va exister. L'idée, c'est s'il y a du jus, s'il y a du relais, si c'est pas trop le fascisme, continue, hein.
Peut-être on va le répéter pendant l'émission, mais où est-ce qu'on peut trouver le programme complet ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ?
Je répéterai aussi à la fin, mais le programme, il est, on l'a un peu distribué par mail, tout ça, mais sinon, il est très complet sur le blog. Le blog, c'est rdr2025.wordpress.com. Et ben, c'est pas obligé, mais nous, ça nous aide de savoir en fait combien de personnes on a. Du coup, on a un petit lien d'inscription où pas besoin de mettre tout son CV, mais juste un petit blaze et de dire voilà, nous on vient quoi. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit des personnes concernées aussi par des questions, soit des personnes racisées et ou des personnes qui vivent à la campagne, qui participent, parce que du coup. Voilà, on est plutôt dans un truc de localité et de personnes concernées. Mais voilà, s'il y a plein de gros bus de Parisiens qui viennent, je ne suis pas sûre qu'on soit en capacité de les accueillir. Mais tout le monde est bienvenu, sinon, à cet événement.
On parle des rencontres décoloniales rurales et on a la joie d'avoir une interview au téléphone avec un membre de l'association AGVS qui va participer à une table ronde qui ouvrira les rencontres le samedi 17 mai. Aboubakar, tu nous entends ?
Oui.
Super. Bonjour.
Oui, bonjour.
Tu fais partie de l'association AGVS. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire AGVS ?
Oui, en fait, AGVS, c'est l'association guinéenne de Valence pour la solidarité. Et moi, je suis membre du bureau, je suis le chargé de com' de l'association.
Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association ? Quand est-ce qu'elle a été montée et par qui ?
Bon. L'association guinéenne de Valence pour la solidarité a été mise en place précisément en septembre 2019 par les jeunes guinéens qui étaient auparavant sur Valence. Donc on était là, vu que les jeunes guinéens ont commencé à être nombreux en fait sur la ville, on s'est dit bon, et si on met en place une structure, une association, on va se servir de notre expérience par rapport à notre vécu,
ouais.
Afin d'aider et surtout orienter les jeunes qui viendront en fait s'installer en fait dans la ville de Valence.
C'est des jeunes qui sont en migration ?
Oui, c'est ça. C'est ouais. Ça. La majeure partie en fait sont issus de l'immigration. Surtout, il y a pas mal de mineurs non accompagnés. Donc, okay. Quand ils sont sur place et qu'ils sont sur la ville de Valence, Nous fixons pour priorité de les aider dans les démarches administratives et surtout les aider en fait à les intégrer dans la société française.
Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait une grande commission, la plus importante un peu de l'association, qui était la commission d'hébergement. Tu peux me dire un peu comment vous vous organisez ?
Oui, en fait, en gros, comme je vous avais dit tout à l'heure, cet hébergement temporaire, en fait, elle a été mise en place par notre association parce que, vu que nous recevions parfois ça peut être des mineurs non accompagnés, ça peut être aussi des gens qui demandent de l'asile. Donc, on faisait, en fait, de l'hébergement avec du volontariat, en fait, avec les membres de l'association. Exemple, si nous avons une personne qui vient d'arriver sur la ville de Valence, si elle n'a pas où passer la nuit, on peut contacter un membre de l'association pour voir s'il a une place chez lui. L'aider, en fait, l'héberger le temps que la structure qui va s'occuper de lui, soit si c'est un mineur ou bien si c'est de la ville, puisse trouver en fait un hébergement pour lui. Donc, on s'est inspiré de ça aussi. On a dit, bon, il faut mettre en place une commission d'hébergement. Et avec un président à la tête et tout. Donc, cette commission, elle a pour but de chercher des personnes qui se trouvent en fait à Valence.
Ouais.
De chercher des personnes qui se trouvent en fait à Valence en situation de difficulté, qui n'ont pas où dormir. Nous les accueillons, nous les logeons en fait chez les membres de l'association. Mais par contre, il y a une petite compensation financière qui vient derrière.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire comment vous récoltez les sous et où est-ce que si on veut vous aider, on peut vous aider pour donner des sous, comment ça fonctionne ?
Voilà, en fait, comme je vous avais dit au préalable, nous, chaque fin de mois, à chaque fois qu'il y a la réunion de l'Assemblée, chaque membre paye 5 euros. Mais des fois, on peut recevoir aussi des fonds, en fait, des personnes de bonne volonté. C'est ça surtout notre petit problème quoi.
Ouais.
Des fois il y a des problèmes de financement qui s'imposent.
Et comment on fait pour vous... Est-ce que vous avez... comment on fait pour vous donner des sous?
Oui, il faut contacter pour ça le président de l'association.
Et on peut vous trouver... Il y a un site ou quelque chose, un contact sur Internet?
Sur Facebook.
Ok.
Nous sommes en train de mettre... On essaye de mettre en place un site web afin de vérifier tout ça. Comme ça, pour que ça puisse devenir facile pour me retrouver. Mais pour l'instant... Notre seul formulaire de contact, c'est sur Facebook.
Ok.
Avec AGVS.
Est-ce que tu as envie, pour finir, de nous toucher un mot d'un événement à venir que vous organiseriez, par exemple début octobre?
Oui. L'événement qui est prévu pour l'instant, c'est le 2 octobre. La fête on célèbre chaque année la fête de l'indépendance le 2 octobre.
Ouais.
Vu que cette fois-ci, ça tombe sur le 2, on a repoussé le 4, c'est-à-dire le samedi qui suit le 2 octobre.
D'accord. On va suivre du coup sur le Facebook cette fête de l'indépendance de la Guinée, c'est ça?
Oui, voilà, nous allons alimenter la page au fur et à mesure en fait pour communiquer sur l'événement.
Okay.
Quand on va faire de l'affiche, on va le mettre sur la page Facebook. Et si vous consultez en fait la page Facebook, vous aurez probablement l'affiche.
Avant ça, on vous retrouve le samedi 17 mai pour la table ronde avec une autre association A4 qu'on va aussi avoir au téléphone. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
À bientôt. Merci, au revoir.
Ton blabla, ton orgueil, tes égos, ton talent, ta droiture. Parjure. Tes prouesses, tes canines, ton sourire, ton haleine, tes je t'aime. Ta posture, imposture, tes égards, tes mots, ton flot, tes débats, ton moi et ton surmoi, ta présence, suffisance, ta nuisance, ta colère, tes rictus, ta bave, tes laïus, ta violence. Ta violence, ta violence. Not all men. Not all men. Not all men. Tes envies, ton mépris, tes calculs, tes scrupules, ta bravoure, ta conscience, tes constats, tes caras. Ton karma, tralala, tes mouvements, ta démarche, tes moulins, tes vestes, tes vents, ta logorée, ta gloriole, tes auréoles, tes croyances, tes viols, tes viols, tes viols. Not all men. Tes éclats, tes ébats, tes soucis, tes tracas, ta hauteur, ta froideur, ta cruauté, ta bêtise, tes actions, tes impressions, ton savoir, tes lectures, tes mensonges, tes hantises, ta connerie, tes tendances, tes mouvances, tes coups, tes potes relous. Ta femme à la maison, ton froc sur les talons, tes questions, tes visions, ta diction, ton avenir, ta couardise, tes sourires, ton inceste, ton inceste, ton inceste. Not all men. Not all men. Not all men. Tous tes gestes. Tes ordures, ta raclure, tes serments, tes blancs-seins, tes projets, tes que dalle, toutes tes failles, tes délires, tes folies, tes grandeurs, tes actions, tes excès, tes actions, tes regrets, tes envies, tes paroles en pustule, tes chagrins, tes ouin-ouin dans lesquels je prends mes bains, tes ouin-ouin dans lesquels je prends mes bains, tes ouin-ouin dans lesquels je prends tout. Not all men. Not all. pas moi. Tout est coup bas. T'es pas vu, t'es pas pris, tes couilles, ta dépouille. Not Omen. Not Omen. Not Omen.
Sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Nous venons d'écouter Joël Sambi, qui est né et habite Bruxelles et qui a grandi à Kinshasa. Elle est écrivaine, poétesse, slameuse, réalisatrice, féministe, lesbienne, activiste et exilée permanente. Sa parole se déploie aussi bien dans les milieux militants que sur les scènes nationales, comme le Théâtre National Wallonie-Bruxelles, où elle est autrice associée.
Et on va avoir la chance d'avoir aussi une personne de l'association A4 qui sera présente pendant les tables rondes des rencontres décoloniales rurales. Bonjour, merci d'être là.
Ouais, bonjour.
Et est-ce que tu peux nous présenter donc l'association A4 et nous dire qu'est-ce que veut dire A4?
L'association A4, c'est un réseau au carrefour des luttes, de l'immigration, ouais, des racismes, des luttes paysanne et écologiste. C'est-à-dire, le logo de l'association A4 veut dire l'association d'accueil en agriculture et en artisanat. En plus, parce que c'était les gens qui viennent des Sud et qui étaient venus en France, mais qui galéraient pour le problème des papiers et autres qui ont fait beaucoup de luttes. J'étais très, très nombreuses, et il y avait certains qui avaient initié l'idée de faire quelque chose parce qu'ils ont fait beaucoup de luttes. Et malgré ça n'aboutissait pas, ils ont fait des manifs et autres à l'époque, mais ils ont vu que ça ne va pas, ils se sont assis. Après, ils ont dit, ah, nous qui sommes là, on est en lutte pour pour les papiers et pour être dans les conditions dignes, mais plutôt nous aussi on vient de différents horizons, c'est-à-dire nous qui sommes là chacun et chacune a une expérience ou des compétences déjà avant d'être en France ou en Europe. Et ils se sont assis, ils se sont retrouvés autour d'une table. Après, chacun a mis ses idées. Ils se sont dit, ah, on va essayer de créer quelque chose pour nous-mêmes, pour qu'on puisse, pour prouver, c'est-à-dire aux autres, qu'on est venu avec une certaine compétence et on peut faire quelque chose. Même pour nous-mêmes, on peut faire quelque chose, quoi. Et ils se sont assis, ils ont, c'est-à-dire, et chacun a parlé, c'est-à-dire ce qu'il a en tête. Après, ils se sont, l'idée de l'association est venue maintenant. Parce que c'est des gens, on avait imaginé, les gens amènent depuis les chutes des compétences. C'est-à-dire, on a constaté que la situation administrative de nombreuses personnes arrivant en France ne leur permet pas de travailler en fonction de leurs compétences. Ces personnes sont alors bien souvent assignées à certains métiers, c'est-à-dire sécurité, ménage et le bâtiment. Vous voyez, non? Et
oui.
Il y a une désertion de campagne aussi. Il y a eu l'idée de l'association est ainsi de faire reconnaître le savoir-faire agricole des personnes arrivant au sud dans un contexte où une grande partie des agriculteurs des Français partiront ou sont en train de partir à la retraite. Et l'idée de cette association est venue comme ça. Après, ils se sont dit, ah, parce qu'avec les grandes agglomérations, c'est-à-dire les grandes villes, et c'est très, très compliqué pour eux. Ils se sont assis, ils ont dit, ah, avec vos compétences, nous savons faire la terre. Après, l'idée de cette association est venue comme ça, quoi. Ils sont réunis avec certaines personnes soutien françaises. Ils ont mené la lutte ensemble. Après, ils ont aidé aussi ces personnes à monter cette asso. Et c'est comme ça l'idée de l'association est venue, quoi. Et c'est ce qu'il faut faire. L'association a été créée et officialisée en 2022, quoi.
Et toi, tu fais partie de l'antenne qui est à Grenoble. Et ça fait combien de temps que l'antenne de Grenoble elle existe?
L'antenne de Grenoble, ça fait presque 10 ans. Mais l'association, c'est depuis 2022 et l'antenne de Grenoble, ça fait une année qui vient de 10 ans.
Et j'ai vu aussi sur Internet que vous aviez un Hello Asso où c'est possible de soutenir A4 en adhérant à des projets.
Oui.
Et sur l'antenne de Grenoble, est-ce que vous avez eu déjà, il y a déjà des fermes, plusieurs fermes avec lesquelles vous êtes en partenariat ou...
Oui, on a quelques fermes, oui, on a quelques fermes.
Ok.
Mais on se bat aussi pour avoir d'autres réseaux aussi, quoi.
Ouais.
Toujours la lutte continue, quoi.
Bah oui, la lutte continue. Et si vous voulez aller voir sur Hello Asso. Eh bien, n'hésitez pas à les soutenir. Il y a plusieurs façons de soutenir. Il y a des... Voilà.
Ouais,
eh bien, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Et ouais. On se rencontrera pour les tables rondes. Ça sera le 17 mai à Oust. Voilà.
Okay.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
L'association AGVS et A4 ouvriront la table ronde samedi. Et on voulait parler un petit peu
des ateliers, faire un petit focus là-dessus. Alors, le samedi matin, il va y avoir de 10h30 à 12h30, ou de 10h à midi, allez voir sur le site des rencontres décoloniales rurales, un atelier pour enfants de 8 à 10 ans. Et l'idée, c'est de vivre ensemble avec une dizaine d'enfants, un atelier philo, discussion. Et l'intitulé de l'atelier, c'est « Le racisme, c'est quoi ?» point d'interrogation. On va regarder des images, écouter des choses, jouer, discuter, voilà, parler de situations assez concrète. L'idée, c'est de brasser collectivement des imaginaires. On va être dans une petite salle, on ne sera pas dans la grande salle des fêtes avec tout le monde, mais on va être dans une petite salle à côté, aménagée avec... avec des bouquins, des choses à écouter au casque, etc. Vous êtes référent d'enfants pour qui c'est compliqué de se concentrer 2 heures parce que c'est long, c'est possible de participer à l'atelier, de décrocher à des moments et de revenir... Voilà. C'est assez important, ça, puisqu'on n'a pas toutes et tous la même capacité, qu'importe l'âge. Et l'objectif, c'est de commencer à parler de ces sujets-là dès l'enfance, parce que souvent, on pense que ça ne concerne pas cette tranche d'âge-là ou que c'est que des sujets pour adultes, alors que moi, je pense que ce n'est pas le cas. Et c'est moi qui vais l'animer, ça va être super. Il faut s'inscrire pour savoir si on va animer un atelier pour 4 enfants ou 10 ou 8. Du coup, c'est important de savoir. Est-ce que tu peux donner le mail ?
Oui, bien sûr. Du coup, c'est inscription par mail avant l'événement, enfin, dès que vous pouvez. Et du coup, il faut envoyer un petit mail à La Friche, en un mot, lafriche-du-6collectif @proton.me. Sinon, vous allez sur le site internet rdr2025.wordpress.com et on mettra tout ça aussi dans la description de l'émission. Et il y a le mail pour l'inscription par mail. On peut dire combien d'enfants et voilà s'il y a des demandes spécifiques.
Et aussi pour les personnes qui sont référentes, parents, parentes qui écoutent cette émission, c'est cool que les enfants ils soient un peu d'accord pour les inscrire. Je veux dire, c'est ok que ce soit un moyen de garde, mais un minimum de consentement.
L'âge, c'est 8-10 ans. Ouais.
De 8 à 10 ans.
Ça, c'est un des ateliers qui aura lieu. Donc, on aura un atelier aussi de théâtre avec Azani et Bengou. Je ne vous en dis pas plus, mais... un atelier sur la négrophobie. Et pour ces ateliers-là, il faut s'inscrire sur place. Donc vous venez et il y aura à l'accueil ce qu'il faut pour s'inscrire. On va juste parler de l'atelier sur la négrophobie. C'est un super collectif qui s'appelle Décolonisons de féminisme. On a fait venir des personnes de Paris parce que c'était plus simple de faire intervenir des personnes extérieures à la Drôme pour parler de certaines questions, et parce que aussi c'est des pratiques qu'elles ont, elles savent faire ça. Et du coup, le collectif, c'est un collectif féministe, antiraciste et décolonial, composé de femmes et de minorités de genre racisées. Le collectif a été fondé en 2020 pendant le premier confinement avec l'envie de libérer la parole des personnes racisées. Du coup, elles organisent des moments de discussion, de parole en mixité choisie sur des sujets comme les violences sexuelles, les violences sexistes, mais aussi le racisme ordinaire. Elles ont fait aussi pas mal de collages. Elles font des ateliers de sensibilisation auprès des ados sur le racisme. Et des ateliers de pédagogie grand public, du coup, qu'elles nous font l'honneur de venir pour parler de la négrophobie, qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste. Ensuite, il y aura un atelier aussi de 12 Dibondo sur la charge raciale et une discussion publique de retour d'atelier là-dessus. Un autre atelier qui est un atelier d'écriture avec Erika Nomeni, qui est une autrice noire, queer, de classe populaire, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'amour de nous-mêmes ». Entre autres, elle a écrit d'autres choses aussi. On avait envie de vous lire un petit extrait qui parle de l'enfance.
« Hello, Souja. Dans ta dernière lettre, tu m'as demandé comment était mon enfance. Comme tu le vois, et le savais peut-être déjà, je ne sais pas parler d'une seule chose. Mes pensées vont, en général, dans tous les sens. » On appelle ça une pensée en arborescence. Une idée en amène une autre et ainsi de suite. Enfant, j'ai vécu à Douala au Cameroun. Je ne pourrais pas dire exactement où, mais je me souviens qu'on habitait dans une rue qui sentait le chocolat à cause d'une usine au chocolat qui en fabriquait. J'ai toujours aimé le chocolat, plus que les bonbons. J'étais souvent étourdi. Je me posais de nombreuses questions comme « Est-ce que les adultes naissent grands ou est-ce qu'ils ont d'abord été des enfants ?» Je me souviens de beaucoup de solitude alors que je n'ai pas toujours été seule. Il y avait mon cousin, ma cousine, ma sœur. Je pense qu'un enfant queer apprend très tôt à se cacher, de lui-même, mais aussi des autres. Je pense qu'on sait de manière à la fois innée et acquise qu'on vit dans le monde des hétéros. Qui pense qu'on sait de manière à la fois... Pardon. Qui, quand il ne nous tue pas, nous tolère. Tolérer, qu'est-ce que ça veut dire ? Je déteste ce mot. Il est très insultant et ne reflète que de la condescendance. Parfois, je me demande qui ils sont pour nous tolérer. D'aussi loin que je me souvienne, je crois que je l'ai toujours su. Et j'irai même plus loin en affirmant que ma famille aussi. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je n'ai jamais eu besoin de faire un coming out officiel à tout le monde. Un jour, j'ai simplement amené Mario à une réunion de famille. La violence a marqué mon corps dès l'enfance. Cette enfance d'enfant queer, jamais tout à fait à l'aise où qu'elle soit, qui ne comprenait pas pourquoi elle devrait préférer les poupées au foot. À mon arrivée en France, la pression s'est accentuée avec la charge raciale et le racisme structurel, sans oublier le stress généré par la nécessité d'apprendre de nouveaux codes et l'obligation à réévaluer sa place par rapport aux standards de l'homme cis, hétérosexuel, blanc, de classe moyenne ou bourgeoise. Quoi qu'on fasse, ce sera rapporté à notre identité étrangère, du sexe faible, du mauvais genre. Parfois, c'est affligeant de voir une différence de traitement, même dans le regard des personnes noires. On m'a parfois dit que Mario était un bon blanc, parce qu'il maîtrise les codes bourgeois. Et on m'a souvent fait sentir que j'étais la méchante noire, mauvaise, agressive. Le pire, c'est quand ça vient des proches. Mais je comprends aussi que je fasse peur. La plupart des gens ne veulent pas s'identifier à ce qu'ils considèrent comme un échec.
Et c'est le conseil lecture. Courez, empruntez, achetez, dénichez, Racine. Bande dessinée publiée en mai 2024 par Lou Luby, autrice de bande dessinée originaire de La Réunion. Lou Luby nous raconte ses racines sous toutes ses formes, ses origines ainsi que l'histoire du cheveu, de ses cheveux noirs et crépus. Elle raconte le racisme capillaire qu'elle subit au travers de sa vie, de ses rencontres. Elle a le courage de dénoncer les nombreuses agressions racistes subies par le biais de ses cheveux. Elle prend le temps de livrer toutes les stratégies mises en place pour tenter de ne plus subir ce racisme. Ce que ça coûte financièrement, mentalement, physiquement. Elle dénonce ce que la société blanche, blonde et bien lissée impose de racisme et sexisme en se cachant derrière ces normes capillaires colonialistes violentissimes. Racine, c'est l'histoire de Rose qui a les cheveux crépus et rêve de les avoir lisses. Elle est prête à tout pour se conformer aux normes sociales et échapper au sexisme et au racisme, quitte à gommer son identité métissée. Entre récit de vie et enquête, c'est aussi une BD sur l'acceptation de soi et de ses origines. Lou Luby.
Pour les personnes qui ont les cheveux texturés, j'aimerais les aider à se réconcilier avec leurs cheveux, avec leurs racines, aussi leurs origines avec elles-mêmes. Et pour les personnes qui ne sont pas du tout concernées, j'aimerais juste leur montrer la place que ça peut prendre, ce que ça peut coûter en temps, en argent, en santé même, à quel point c'est important pour les femmes noires et afrodescendantes dont je fais partie. Les cheveux, c'est énorme.
Oui, c'est une triste réalité et c'est énorme. D'ailleurs, contre toute attente, en mars 2024, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à intégrer la discrimination capillaire dans la liste des motifs discriminatoires au travail. Elle a été transmise au Sénat depuis cette date, en attente d'être promulguée. Alors, les séniles sénateurs, on se bouge le cul maintenant ? En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de Racine, de Lou Luby.
Merci pour ce conseil lecture. Avant de passer à l'agenda, on voulait juste rappeler les informations. Du coup, les rencontres décoloniales rurales vont avoir lieu du 17 au 18 mai 2025 à la salle des fêtes de Oust-sur-Sie. C'est à petit prix et ou à prix libre. Il y a toujours une cagnotte en ligne. On peut trouver le lien sur le blog des rencontres qui est rdr2025.com. .wordpress.com pour avoir des informations ou si vous avez des questions, vous pouvez écrire à lafriche-collectif@pronton.me.
Venez, ça va être génial et même s'il y a des petits problèmes, vous serez là pour les voir premier plan.
Et aussi, il y aura à manger.
Il y aura surtout à manger avec un bus et des gens qui savent faire à manger. Et
non, mais c'est important de se dire bar. Qu'on va pas.
Non, mais on va manger quand même. Voilà, on va manger, ça va être bien. Et puis vous allez rencontrer des personnes géniales
et apprendre des choses.
Et il y a la rivière à côté.
Voilà pour les rencontres décoloniales.
Et on va se diriger vers la... Enfin, on se dirige vers la fin de l'émission.
On va se diriger vers la sortie.
Et c'est parti. On se quitte en musique avec Kazé, Tragédie d'une trajectoire. Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connue, je suis noir, né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse. Pourquoi suis-je si radical? Me méfie des mains tendues trop amicales. N'ai aucune tendresse pour mes tours verticales, ni la bonne humeur de mon île tropicale. Tout ce que j'énumère n'a aucun humour, est noir et amer, froid et sans amour, fade et sans saveur, et a dans son sommaire un lexique et une grammaire pour cracher sur leur mère. Pourquoi suis-je si marginal? Épouse la cause du faible de façon machinale. Ne vois que du complot dans les lignes du journal. N'arrive à dormir que dans un bruit infernal. Puisque j'ai les nerfs, l'impression qu'on m'ignore. Et que de toute manière on en veut à ma crinière. C'est sans aucune lumière que je sors de ma tanière. Avec un poignard imprimé sur la bannière. Pourquoi suis-je si peu sociable, aussi sensible, pénible, irresponsable, et me sens seul quand mes semblables me prennent pour cible? Pourquoi être stable dans ma tête est impossible? Parce que j'ai vu venir de loin mon calvaire, braquer mon avenir avec un revolver. Je préfère vous prévenir, j'ai de la colère dans le regard quand je marche sur vos boulevards. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connue, je suis noir et né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y'a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Cette belle insouciance de l'enfance, moi elle me ramène à ma province, à Rouen. Jolie petite ville de France, où quand le nègre passe, y'a des dents qui grincent. Je vous en prie, s'il vous plaît, tuez-les tous. Vous, ma très sainte Marie, pleine de grâce. J'ai sorti les ciseaux de ma trousse avec la frousse et l'intention de leur faire mal à la sortie de classe. Je rumine, je ressasse, sans cesse je repense au seau d'eau dans ma face qui a tué ma petite enfance. Et ces baves de la dame de service, j'ai fait payer son fils. À la finale, c'est moi qui le punisse. Et dans ma jeunesse, je leur ai filé la jaunisse. Au collège, ils me connaissent, se plaignent et ils gémissent. La proviseure est une connasse qui me vire et me menace d'appeler la police pour ma sale tignasse. Et les profs me provoquent, chaque jour me convoquent et me disent qu'on me scolarise pour les allocs. Donc je réplique, moi l'enfant de la République, on me rétorque que tout ce que je mérite c'est des claques. Donc j'attaque, affrontement physique et mise à sac. Ma tête est comme saturée et à bloc. Tout ça n'a pas de sens, mais tout ça laisse des traces. Et je ne dis rien à ma mère le soir quand elle m'embrasse. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connue, je suis noir et né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y'a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse. Avec la vieillesse. Vous voulez dire, il suffit de peu de choses pour construire un enragé. Il suffit de peu de choses pour construire un engagé. Quelques humiliations ou quelques injures suffisent. Il y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse. Tragédie d'une trajectoire.